est envisagé, c'est qu'en fait, on prenne des patients qui sont dans une phase d'amélioration, mais qui nécessitent toujours de la réanimation, pour délester et pour recréer de la place pour des patients qui en auraient besoin.
L'armée à la rescousse dans le Grand Est. 6 patients malades évacués dans la journée de l'hôpital de Mulhouse, direction Toulon. Le travail se généralise dans de nombreuses entreprises, comme ici, à Europe 1 d'ailleurs. Et finalement, il y a pas mal d'avantages.
C'est l'occasion rêvée finalement de tout remettre au carré pour être prêt quand la crise sera terminée.
En cette période de confinement, beaucoup de citadins, de Parisiens notamment, ont choisi de s'exiler à la campagne ou au bord de la mer, mais les locaux ne les voient pas d'un très bon œil.
C'est égoïste de leur part, car nous aussi, dans la campagne, on a des familles et il en suffit d'une seule personne pour que le virus arrive.
Et puis pas d'Euro 2020 de foot, compétition reportée à l'an prochain. En revanche, tous les matchs de Ligue 1 devraient se jouer d'ici la fin juin, même si c'est un casse-tête. Votre invité à 6h40.
C'est Michel Biérot, directeur exécutif des achats et marketing chez Lidl France. On va parler, bien sûr, de ces images qu'on a tous vues de Français qui se ruent sur les pâtes ou sur le papier toilette. Mais on va aussi parler du personnel chez Lidl, justement. Comment est-ce qu'on protège ces personnels qui continuent à travailler. 6h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est la guerre, disait Emmanuel Macron avant-hier soir à la télé, et il joint les actes à la parole puisque l'armée arrive en force dans le Haut-Rhin, des militaires pour aider hôpitaux et soignants totalement débordés face à l'épidémie de coronavirus. Un hôpital de campagne va être installé à Mulhouse et des avions médicalisés s'apprêtent à évacuer des malades. Arthur Elmaché.
4 heures en camion militaire. Le matériel va faire la route au départ de la base de Vitry-le-François dans la Marne. Des tentes, des respirateurs, des masques puisés dans la réserve stratégique de l'armée. Direction Mulhouse, à proximité immédiate de l'hôpital, sans doute le parking. En quelques heures, les soldats vont monter entre 15 et 20 tentes climatisées, 30 lits de réanimation, plusieurs dizaines de militaires, réanimateurs, infirmiers, aides-soignants. Le commandant Antoine du service de santé des armées a plutôt l'habitude de monter ça en plein désert. Là, dit-il, la logique est différente.
En fait, on est comme un service supplémentaire qui vient se greffer à un hôpital. Le plus proche possible, ce qui est envisagé, c'est qu'en fait, on prenne des patients qui sont dans des services déjà hospitalisés, qui sont dans une phase d'amélioration, mais qui nécessitent toujours de la réanimation, pour délester et pour recréer de la place pour des patients qui en auraient besoin.
Dans le même temps, et 30 km plus au sud, deuxième opération de l'armée, l'aéroport de Balmulhouse, des avions militaires suréquipés vont embarquer des malades en réanimation, 6 par 6, et les répartir dans les hôpitaux du sud-est de la France, moins touchés par le virus. Premier vol, tout à l'heure, en milieu de matinée.
Arthur Elmaché.
Si vous avez des questions, d'ailleurs, je le précise, pour le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, vous appelez déjà le 3921. Vous vous inscrivez, énormément de questions sur le hashtag radio ouverte également. Les réponses dans le journal de 7h.
Et face à l'urgence sanitaire et au manque criant de matériel, les masques arrivent enfin dans les hôpitaux et les pharmacies. Ils devraient être livrés dans les prochaines heures, demain au plus tard. Virginie Salmen.
Oui, des camions remplis de masques sont sur les routes, direction d'abord les 25 départements prioritaires des régions Grand Est, Île-de-France et Hauts-de-France, mais on ne sait pas combien de masques précisément. Plusieurs millions, selon le directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon. Il y en avait au début de l'épidémie 110 millions dans les stocks stratégiques de l'État, 25 millions ont déjà été débloqués début mars, mais ils sont arrivés par boîte de 50 et sont partis en 2 jours dans les pharmacies. Cette fois, c'est donc une nouvelle partie du stock stratégique qui va être livrée, mais aussi des masques, des stocks de l'armée et de certaines grandes entreprises, des banques notamment, qui les mettent à disposition, ou encore à Bordeaux, 2 millions de masques périmés issus des administrations, mais ils sont encore parfaitement efficaces, seul l'élastique peut avoir un peu séché. Attention, ces masques sont exclusivement pour les personnels soignants. Les pharmaciens me l'ont répété, pas question d'en vendre aux particuliers. Les médecins, y compris les médecins de ville, en manquent trop.
Des masques pour les personnels soignants, le message est clair. Par ailleurs, l'agence du médicament décide d'imposer des restrictions sur le paracétamol. Trop de Français font des réserves. Résultat, dès aujourd'hui, pas plus d'une boîte par personne en pharmacie. 2 en cas de maladie, la vente sur Internet est suspendue. Le gouvernement a-t-il pris la mesure de la gravité de la pandémie à temps? Fallait-il vraiment organiser le premier tour des municipales coûte que coûte? Ces interrogations venaient déjà de l'opposition. Sauf que là, c'est Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, qui crée la polémique. Dans une interview au journal Le Monde, elle assure avoir prévenu l'exécutif dès janvier et elle qualifie le scrutin de mascarade. Édouard Philippe, lui, assume.
Lorsque nous avons posé la question de l'organisation du premier tour des élections municipales, nous l'avons posée aux scientifiques qui nous ont dit qu'en respectant les consignes de sécurité et en les respectant strictement elle pouvait se dérouler sans causer de danger aux électeurs qui allaient voter et aux personnes qui tenaient les bureaux de vote. On ne peut pas, lorsqu'on est un responsable politique dans une démocratie, décider seul, la veille d'une élection ou trois jours avant une élection, d'interrompre un processus démocratique. Imaginez ce que les Françaises, les Français, les candidats, les forces politiques auraient dit si samedi nous avions interrompu la veille un processus électoral qui s'est d'ailleurs déroulé dans de bonnes conditions, alors que d'autres Françaises et Français, parfois les mêmes, mais d'autres, allaient se promener librement dans les jardins, sur les plages, dans les villes. Notre décision a été fondée sur des motifs scientifiques. Et elle est parfaitement assumée sur ses motifs scientifiques.
Le Premier ministre, dans le journal de 20h de France 2 hier soir, Agnès Buzyn, dit regretter avoir employé le terme de mascarade.
6h06 sur Europe 1 et nous entrons dans la deuxième journée de confinement. Tout le monde doit rester à la maison sauf nécessité. Et dans les entreprises, les demandes de chômage partiel explosent. Dès lundi, le serveur du ministère du Travail était totalement bloqué, Olivier Samin.
Une journée de blocage, le temps que les équipes techniques effectuent les travaux nécessaires à son bon fonctionnement. Et à nouveau depuis hier, le serveur est accessible. Mais l'afflux des demandes de mise en chômage partiel déposées par les entreprises grimpe en flèche, tandis que, partout en France, les antennes départementales des directs, les directions du ministère du Travail sur le terrain, sont prises d'assaut par les employeurs qui expliquent leur situation et qui veulent connaître la marche à suivre. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, dit le ministère du Travail, qui n'était pas en mesure hier de donner de nouveaux chiffres sur le nombre d'entreprises qui ont déposé une demande et le nombre de salariés couverts. Ce qui est clair, c'est qu'ils se compteront en millions. Le coût du dispositif est estimé à 8,5 milliards pour les deux mois qui viennent, 8,5 milliards sur les 45 annoncés hier par Bruno Le Maire.
Et quand c'est possible, les entreprises mettent leurs salariés en télétravail. Ça peut avoir du bon, changer les habitudes, créer des liens différents, tout en restant efficace, comme dans l'agence de relations publiques dirigée par Cyril Chassin.
Moi, je trouve que mes équipes, qui là, je les vois, hein, depuis hier, finalement, on s'est tous un peu adaptés les uns les autres. On est chacun chez soi. Je sais que chacun va organiser ses journées en fonction de ses contraintes. Hein. Je pense, par exemple, des parents qui ont des enfants aussi. Après, j'ai des initiatives aussi qui viennent des équipes elles-mêmes. Une de mes collaboratrices qui, hier, nous a dit, nous envoie un mail. Ah, et pourquoi on ne serait pas un café virtuel? On se prend un café chacun dans notre coin et ça nous permet un peu d'échanger sur notre journée, sur les difficultés qu'on rencontre, les sujets qu'on est en train de traiter chez nos clients. Et donc après, ben nous, nos équipes, finalement, on leur demande de passer plus de temps sur des actions où on a moins besoin d'interaction physique, d'en mettre à jour tout ce qui est outils, méthodologie. C'est l'occasion rêvée, finalement, de tout remettre au carré pour être prêt quand la crise sera terminée. Cette situation, il faut en voir des opportunités de travail. Et moi, je trouve que c'est un retour au temps long. Et le temps long, il est très important parce qu'il est propice à la réflexion, il est propice à la stratégie, il est propice à la créativité. C'est vrai que les collaborateurs savent maintenant qu'ils peuvent organiser leur journée de travail avec de nouveaux paramètres et notamment d'intégrer davantage ce temps long.
Voilà, un retour au temps long, témoignage recueilli par Aurélien Fleureau. Télétravail décrété aussi pour les salariés des assureurs Maïf et Massif, sachant que l'assurance est un secteur d'activité prioritaire. Au total, près de 8 millions d'emplois peuvent être effectués à la maison. Dans le secteur privé, restent les craintes autour de la sécurité des entreprises.
Bonjour Jérôme Billois.
Bonjour.
Vous êtes expert cybersécurité au cabinet Wavestone en charge de la gestion des risques numériques. Des risques numériques qu'on ne maîtrise pas toujours très bien, il faut bien le dire, alors que tous ceux qui télétravaillent s'y exposent et donc y exposent leur entreprise. D'abord, cette cybersécurité des entreprises aujourd'hui en télétravail, elle repose sur le simple mot de passe choisi par le salarié.
Alors c'est un problème qu'on rencontre actuellement. En fait, normalement, habituellement, les entreprises qui mettent en place du télétravail permettent aux salariés, en plus du mot de passe, d'avoir un code additionnel, comme on le voit souvent pour nos banques. Le problème, c'est que là, il faut passer très rapidement à des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et dans certains cas, eh bien, on est obligé de baisser un peu la garde et de revenir en arrière sur des mesures de sécurité comme celles que j'évoquais. Oui, je disais que ça pose un vrai problème parce que la plupart des gens utilisent le même mot de passe pour leur vie professionnelle et pour leur vie personnelle. Et donc là, ça fait une porte ouverte pour les cybercriminels très rapidement. Donc s'il y a bien un conseil pour les auditeurs ce matin, c'est ceux qui utilisent le même mot de passe au bureau et à la maison, eh bien, faut changer tout de suite le mot de passe du bureau.
Alors il y a aussi des pièges en ce moment, Jérôme Billois, tout un tas de sites prétendument sites d'info, d'applications sur le thème du coronavirus qui attirent l'œil et qu'il ne faut surtout pas télécharger.
Oui, malheureusement, les cybercriminels, eux, sont très opportunistes et utilisent tous les événements majeurs, même les plus graves, comme ceux qu'on vit aujourd'hui. On voit des milliers de faux emails qui vont garantir, promettre de l'information et en fait, essayer de vous soutirer votre mot de passe ou des informations personnelles. On voit aussi même des fausses applications pour les téléphones qui garantissent, par exemple, des cartes pour savoir qui est infecté à côté de chez vous et qui, en fait, ouvrent la porte de votre téléphone aux cybercriminels et leur permettent d'accéder à l'ensemble des informations qui sont dessus, y compris les informations professionnelles dans le cadre du télétravail, si c'est autorisé.
Et en termes de télétravail, Jérôme Bilois, une simple question courte pour terminer. On a un véritable retour d'expérience sur la période des grèves de décembre?
Oui, ça a permis quand même de tester un certain nombre de processus finalement et de voir la manière dont les entreprises pouvaient réagir. Donc pour certaines, il y a eu un peu une chance d'avoir cette période de grève pour muscler les différents systèmes et tenir le nombre d'utilisateurs. Alors là, on passe encore une autre échelle. Donc il va falloir se serrer les coudes et dans les équipes informatiques, ça travaille dur pour s'assurer que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions.
J'imagine que vous êtes sur le pont. Merci Jérôme Bilois, expert en cybersécurité au cabinet Wavestone. Merci d'avoir été l'invité en direct du journal de 6h sur Europe 1 ce matin.
Restez chez vous, mot d'ordre martelé par le gouvernement, hier soir encore par Édouard Philippe, qui a su respecter lui-même les mesures de confinement autant que possible avec sa fonction. Et d'ailleurs, c'est tout le gouvernement qui se réorganise. Jean-Rémy Baudeau.
Le moins de réunions possible, voilà la règle. L'Élysée passe aussi à la visioconférence, y compris pour le Conseil des ministres. Aujourd'hui à 15h, à quelques exceptions près, chaque ministre sera dans son ministère à distance. Autour d'Emmanuel Macron aussi, on a réduit la présence des agents tout en préservant la continuité de l'État, dit-on à l'Élysée, où les couloirs sont quasi vides. Toutes les personnes qui le peuvent font du télétravail. Certaines équipes ont été scindées en deux, une partie à distance, une autre au palais. Ces équipes, elles sont étanches, elles se relaient mais ne se croiseront jamais, explique un conseiller. Dans les ministères, seuls les membres les plus essentiels sont présents. Exemple à Bercy, Bruno Le Maire a divisé son cabinet par deux. Au ministère des Territoires, un seul conseiller est au bureau pour répondre au téléphone. Même les ministres sont à distance. Le deal, c'est d'être en télétravail depuis Paris. On est logé à la même enseigne que tous les Français, plaide un membre de cabinet.
Rappelons qu'hier, les forces de l'ordre faisaient plutôt de la pédagogie, mais là, c'est fini. Les amendes vont tomber si vous n'avez pas votre attestation avec vous pour justifier vos sorties jusqu'à 135€. Pour fuir cette ambiance pour le moins anxiogène, de nombreux citadins sont partis se réfugier dans leur résidence secondaire à la campagne ou en bord de mer. Normandie, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, qui sont pour l'instant peu atteints par le virus. Logiquement, les habitants ne sont pas vraiment ravis de les voir arriver. Roman Hoquet.
C'est de l'inquiétude et de l'énervement, en fait. C'est les deux à la fois, parce que tous les Parisiens sont là et on les voit se balader en ville, aller à la boulangerie, au supermarché.
Dans ce village du Loiret, les citadins ont rouvert les volets de leur résidence secondaire comme si c'était les vacances, regrette Nicolas, un habitant.
C'est égoïste de leur part, car nous aussi, dans la campagne, on a des familles. J'ai des grands-parents, des arrière-grand-mères qui, elles, sont forcément plus fragiles que moi. C'est beaucoup plus inquiétant pour elles et il en suffit d'une seule personne pour que le virus arrive.
Une isolée avec une population âgée comme dans d'autres secteurs de Nouvelle-Aquitaine, de Normandie, de Bretagne où se confinent les Parisiens. Agnès Lebrun, la maire de Morlaix, redoute la saturation des structures de santé.
Dans nos territoires, il y a des phénomènes de désertification médicale que nous sommes à flux tendu en règle générale. Compte tenu de la surpopulation qui afflue, on se retrouve avec des hôpitaux qui ne sont plus à la dimension des populations hébergées.
Le chef de service d'un hôpital normand confirme « On n'avait pas du tout anticipé un tel exode, un afflux qui pourrait avancer le pic de l'épidémie dans la région prévu pour la fin du mois. »
Dans le monde du sport, cette fois c'est acté, pas d'Euro 2020, la compétition est reportée à l'an prochain, décision prise hier par les dirigeants du foot européen, voilà qui va libérer de la place notamment en juin et en juillet.
Cyril de la Morinerie, l'objectif c'est que le championnat, suspendu jusqu'au 15 avril, puisse reprendre, même si ça s'annonce vraiment très compliqué.
Il n'est pas question que le championnat s'arrête définitivement. La Ligue de football professionnelle souhaite que l'ensemble des rencontres de Ligue 1 soient jouées, si possible, avant le 30 juin. Mais c'est un vrai casse-tête. Avec les finales de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, il y a 23 dates à trouver. Les clubs pourraient ainsi jouer tous les 3-4 jours afin de terminer à temps le championnat. La Ligue a d'ailleurs trouvé un accord avec l'UEFA pour que plusieurs journées se déroulent en pleine semaine. Mais la très lucrative Ligue des Champions devra aussi trouver sa place. C'est une priorité absolue. Elle elle génère plus de 3 milliards d'euros de recettes. Elle est plus rentable qu'un euro de football. Des aménagements pourraient ainsi être effectués pour raccourcir la compétition. Au lieu du mardi et du mercredi, les matchs pourrait être décalé le week-end. Enfin, il faudra aussi programmer les matchs internationaux, notamment ceux de l'équipe de France, officiellement reportés en juin. Bref, il faudra faire tout rentrer, et cela promet des jours, voire des nuits de travail pour trouver une solution.
Cyril de la Morinerie, sachez aussi que 3 courses cyclistes sont annulées. Le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Le tournoi de tennis de Roland-Garros est reporté en septembre. Allez, un sourire pour terminer. Vous le savez, toute notre vie quotidienne est en train de changer. Travail, enfants, loisirs, impossible de réunir sa famille ou ses amis quand on a quelque chose à fêter. Alors c'est le système D. Hélène Terzian a justement fêté l'anniversaire d'un de ses amis, Ronan, hier, par écran interposé. On va jouer les petites souris pour savoir comment ça s'est passé.
Bah écoute, pour moi ça marche, en tout cas je vous vois et je vous entends. Donc.
Hola.
Hola. Il y a craint du bon, je savais pas que vous pouvez faire ça.
Bon anniversaire.
Salut.
Joyeux anniversaire Ronan.
Joyeux anniversaire.
Merci.
Magnifique Ronan.
Ah ouais, regarde, non, je suis en petit gilet, je suis en tricot de soirée si tu veux.
Bon voilà, un petit verre entre amis, un petit dîner. Mes colocs m'ont fait un formidable dîner, une petite bouteille de champagne, des bougies, et puis voilà, c'est un anniversaire comme les autres finalement. On peut discuter, simplement, bah, il y a l'écran entre nous, mais c'est celui qui arrête les virus, donc d'une certaine manière, on est content.
Il paraît qu'il faut faire un vœu.
Un 29e anniversaire, ça se...
29e, allez, 1, 2, 3.
Champagne ?
Si, d'ailleurs, tiens ton cadeau, Ronan. Mais je vais te le montrer tout de suite. Comme je sais que tu fais la collection des bières qui viennent des autres pays.
Trop stylé.
On te souhaite...
Souhaite-moi tout le meilleur.
Ouais, j'espère que ce sera mieux pour les 30, parce que sinon, on va être tout blanc. Hein.
Bon, je vais filer, les amis.
Ouais, moi, pareil. Je vous embrasse.
Oui, on vous embrasse et on souhaite bon anniversaire à Ronan. On y était
génial.
Vraiment. Hein.
C'est génial. On va quand même remercier Hélène Terzian parce que les journalistes d'Europe 1 sont mobilisés, quoique confinés. Ils sont chez eux, ils travaillent de chez eux. Du coup, ils ont partagé un peu de leur vie privée aussi ce matin. Merci beaucoup, Hélène Zélène.